Vous écoutez France Musique.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom est Alex Taylor. Je suis votre chef de cabine au nom de notre commandant de bord qui ce soir, Jean-Jacques Benex. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous nous assurerons de votre plaisir et de votre confort au cours de ce vol de France Musique pendant lequel nous allons survoler de nombreux paysages, dont ceux du port La Meule, des îles de Skye et de Lipari. Puis on fera un looping sur la piste de roller de Santa Monica. Vos portables doivent maintenant être éteints et sous jusqu'à l'arrivée à notre générique de fin. Veuillez attacher et ajuster votre imagination, redressez votre curiosité et en vue de notre décollage immédiat, préparez-vous à prendre des décisions déraisonnables quelque part entre la lune dans le caniveau et au-delà des mythes gaulois. Ladies and gentlemen, my name is Alex Taylor. It is my pleasure to... Voyage en moi majeur, ravi de vous retrouver ce dimanche soir sur France Musique avec Jean-Jacques Benex, artiste multitasking, j'ai envie de dire ça. Est-ce que ça vous va comme titre hein, parce que vous faites tout, vous.
C'est bien, multitasking.
C'est ce qui se dit de façon moderne.
Oui, moi, j'ai envie de dire incompétent en tout, mais si on regroupe le tout, ça fait un artiste polyvalent. Voilà, mais c'est les beaux-arts, la musique, la peinture, le dessin, le cinéma, la dramaturgie.
Justement, j'avais envie de vous poser une question, parce qu'on lit partout, vous êtes mis au piano à 50 ans, c'est ça?
Ouais.
Et vous en êtes où alors?
J'en suis que il y a quelques jours, pour la première fois, j'ai joué en public, mais très 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 peu de choses très courtes. J'y vais encore, je suis... Parce que, si vous voulez... Quand il y a quelqu'un qui vient se pencher, et puis en général, quand vous jouez, les gens viennent toujours tout près du clavier, alors ça me panique, je me mets à trembler, et mes yeux se brouillent, et je ne sais plus jouer. D'ailleurs, je ne joue pas très bien, mais je joue avec constance, tous les jours, au moins une ou deux heures.
Quand même, c'est pas mal.
Oui. Depuis 15 ans, et j'ai emmené avec moi mon clavier en vacances, partout.
Quelle sorte de clavier vous avez?
J'avais un clavier électronique parce qu'au début, je n'étais pas certain. Parce que je me suis dit, demain, j'apprends le piano pendant 50 ans. Hein? Un peu comme Vialatz disait, demain, j'apprends l'anglais. Bon, alors moi, j'ai fini par me décider. Et avec mon ami musicien Reinhard Wagner, un jour, je lui ai dit, bon, écoute, je vais aller acheter un piano. Mais comme je ne suis pas sûr, je vais aller acheter un clavier. Voilà. Alors, j'ai acheté un clavier. Et puis ensuite, j'ai acheté un vrai piano. Et maintenant, j'ai un demi-queue Yamaha.
Ah bah bravo.
Et si je pouvais, évidemment, j'achèterais un Steinway.
C'est quand même assez difficile à l'acheter. Enfin, je vous en parle en connaissance. Quand j'étais jeune, j'apprenais des langues. J'ai appris la vôtre, j'ai appris d'autres langues. J'ai essayé de me mettre au polonais récemment et il m'a fallu 2 jours pour apprendre à compter jusqu'à 10. Donc à 50 ans, ce n'est pas évident de se mettre au piano. C'est plus difficile quand même, malgré tout ce qu'on dit pour encourager le fait qu'on apprenne toujours, mais c'est plus difficile. Comment vous avez fait?
Je suis une réclame pour, si vous voulez, on pourrait faire une émission sur du troisième âge et de l'apprentissage de la musique. C'est possible, il l'a fait, vous pouvez le faire. Voilà, donc je suis une réclame pour une marque de piano. Il faut constance, amour et un bon prof.
Et de la grammaire aussi, faire des gammes et tout
Oui, oui, bien sûr, je fais des exercices. Acceptez de faire des exercices pour délier les doigts, parce que vous n'avez pas les doigts que vous avez quand vous êtes plus jeune. Alors, il y a un gros inconvénient, il faut tout de suite le dire, le savoir, c'est je n'ai jamais fait de solfège. Je veux dire, quand j'ai fait du solfège, j'avais 10 ans, j'étais au lycée, et ça m'emmerdait à un point. Vous voyez, donc j'ai gardé un blocage. Et ça m'a fait perdre énormément de temps. Donc je pense que toute personne qui veut commencer le piano à un âge avancé doit aussi faire du solfège. Voilà, c'est le conseil que je, humblement, je donnerais. Et trouver un bon prof.
Alors, il faut tout de même dire que vous nous offrez un beau cadeau. C'est un scoop, Jean-Jacques Benex, parce que nous avons un enregistrement absolument inouï que nous allons placer à la fin de cette émission. C'est vous jouant live du Satie.
Oui, c'est une pièce qui s'appelle Vexation, qui est un des plus courts morceaux de la musique occidentale. Que Satie a composé et qui a été, on a dû attendre assez longtemps pour qu'elle soit jouée. Et alors, c'est une musique un peu répétitive.
Il faut jouer même jusqu'à 843 fois, c'est ça ?
Il faut la jouer 843 fois, ce qui fait, en fonction de la vitesse à laquelle vous la jouez, entre 12 et 24 heures. Et John Cage, par exemple, a joué à New York en 1963. C'est un morceau de musique qui fait l'objet de performances. Parce qu'évidemment, alors, vous pouvez un peu tricher en faisant venir plusieurs pianistes, en faisant des tours de rôle, en mettant 10 pianos à la suite les uns des autres. Enfin, ça donne lieu à plein de... Votre imagination n'a qu'à venir combler les vides.
Alors, nous allons réserver cette surprise pour la toute fin de notre émission. Mais pour le moment, vous êtes en train de piloter notre avion. Et je remarque que nous survolons l'île Dieu. Et
oui.
Nous allons en parler à travers l'une des musiques de vos propres films.
Voici que s'avance l'île d'Afrique. D'Afrique, Lyonne d'Afrique, cruelle, silencieuse et souple, elle se glisse dans la savane d'Afrique. Yulka, Fatu, Maoli, voici que s'avance Lyonne d'Afrique, Lyonne d'Afrique. S'apprête à tuer. Voici que s'éloignent les lionnes d'Afrique.
C'est Carole Fredericks. C'est une collaboration, si on peut dire, entre Verdi, Wagner et vous-même. C'est l'une de vos premières chansons pour lesquelles vous avez signé les paroles. Comment ça s'est fait ?
C'était pour Roselyne et les Lions. Et il y avait un spectacle dans la cage. Mais c'était un spectacle un peu cheap. Mais en même temps, il devait y avoir une musique qui devait exprimer la grandiloquence et le spectaculaire d'un spectacle avec des fauves. Et quoi de mieux que Verdi, des cuivres, Haïda. Et là, il y a eu une petite histoire particulière, c'est d'une part que j'ai écrit ces paroles, et d'autre part, surtout, que quand on a mis le disque sur le plateau, quelqu'un s'est trompé et l'a pas mis à la bonne vitesse. Et on m'a dit, vite, remettez-le, etc. J'ai dit, non, c'est vachement bien.
Passer trop vite ou pas passer...
C'est doucement comme ça.
Ah oui.
Parce que là, elles vont beaucoup plus vite, ces trompettes d'Aïda. Et alors, donc, voilà. Et c'est un peu décalé, si vous voulez. C'est à la fois... une chanson guerrière et en même temps sur des images de ces lionnes qui sont extrêmement belles, féroces, cruelles et auxquelles on prête toutes les intentions. Alors voilà, c'était... Vous savez, quand je fais des films, c'est un peu l'occasion pour moi de me donner des challenges. Alors, je fais un film, donc je vais faire une chanson, ou je vais faire un tableau, ou je vais vous jouer du piano.
C'est vous qui décidez de ces challenges, ou les challenges sont proposés par la vie, par le hasard?
Alors, c'est à la fois la vie, les hasards et mes préoccupations, vous voyez. Je suis un musicien rentré, j'ai voulu être pilote automobile, pilote d'avion.
Vous sentez l'âme d'un pilote alors,
ah, oui.
Vous avez fait des cours de pilotage aussi?
Oui, j'ai fait des courses. J'en ai fait des courses et j'en ai gagné. J'étais pas mauvais du tout, mais j'ai commencé trop tard. J'ai fait beaucoup de choses très tard. Et le cinéma m'a tout donné, mais il m'a tout pris, y compris le temps. Donc j'étais à très bon niveau course automobile, mais c'était impossible de continuer une carrière de pilote et de faire des films. Quand vous faites des films, vous n'avez plus le temps de faire rien d'autre, sauf des grands moments d'arrêt, où alors là vous pouvez faire d'autres choses. Alors en définitive, le plus simple, c'est de faire de la course à pied ou du piano, parce que si vous pouvez amener un clavier avec vous, idéalement il faudrait amener un Steinway. Mais mes moyens ne me le permettent pas.
Alors, l'île Dieu, c'est votre première escale. Mmh. Pourquoi?
Alors, ça, l'île Dieu, c'est une vieille histoire parce que c'est une partie de ma vie qui s'est passée en Bretagne et où j'ai appris à naviguer à la Trinité-sur-Mer. Et l'île Dieu était une escale fréquente dans ce petit port qui s'appelle Port-la-Meule, qui est à peine un port. C'est une petite anse sur la face ouest de l'île, où vont mouiller, à l'époque, 3-4 petits chalutiers. C'est un mouillage extrêmement... C'est plus un mouillage qu'un port. Et au bout de ce port, de cette anse, il y avait un petit restaurant où on mangeait de délicieux homards, du homard breton. Donc, j'y venais quand j'étais plus jeune avec des amis qui avaient un bateau. Puis par la suite... quand je vous dis que le cinéma m'a tout donné, il m'a permis de gagner assez d'argent pour m'acheter un beau bateau blanc dont je rêvais. Hein. C'était un peu l'équivalent du piano. Demain, je m'achète un bateau, mais j'en rêvais depuis très très longtemps. Et un jour, je me suis acheté un bateau. Et le premier endroit où je suis allé, ça a été à Port-la-Meule, manger du homard. Et j'y revenais assez souvent. C'était un mouillage, je vous dis, très, très, très inconfortable parce qu'au milieu de la nuit, vous avez tout d'un coup un vent qui se lève et vous vous mettez à danser comme une coquille de noix et vous êtes obligé de quitter le mouillage et de repartir. Voilà. Et j'ai une grande nostalgie de cet endroit.
Je ne savais pas que vous étiez un si bon grand voyageur parce que vous auriez pu passer votre vie à voyager aussi.
Oui.
Vous en parlez presque les larmes dans les yeux d'ailleurs.
Non, parce que oui, mais figurez-vous que c'est pas du tout une plaisanterie. J'ai été un amoureux de la mer, j'étais un très bon marin, mais malheureusement, j'ai toujours un mal de mer chronique. Et il y a eu un moment où c'était plus possible. Mais j'ai été partout, j'avais mon bateau, j'ai traversé la Méditerranée de long en large et en travers, dans tous les sens. Je connais pas, je vais pas dire que je connais toutes les îles grecques, mais j'en connais beaucoup. J'étais jusqu'à la Turquie, Rhodes. Et puis j'ai fait le tour, Gibraltar, les îles Açores, etc. Et les îles Lipari, dont nous parlerons plus tard. J'adore les îles.
Mais quand vous dites tout ça, vous êtes parti tout seul ou vous êtes,
c'était en équipage ? Non, j'étais parti en général avec une ou deux personnes. Peu de monde. J'aime pas les grands équipages.
Tout près du Cap Griné, quand j'ai fini de pêcher, on se retrouve chez Léonce, en Léonce. On mesure les poissons en vidant des canons et l'on passe vite le cap car ça tape. Bientôt plus de cap griné, encore moins de cap blanné. Ce qu'on voit c'est nos nez tout rouges. Et quand les verres que je lève ôtent le sel sur mes lèvres, moi je pense à Marie qui est partie. Quand la mer monte, j'ai honte. J'ai honte quand elle descend. Je l'attends à marée basse. Elle est partie, hélas. À marée haute avec un autre. Lors le nez dégrisé, je quitte l'estaminet. Et je regarde en rêvant le rident. L'autre côté de la mer, les collines d'Angleterre montrent que le monde par ici est tout petit. Et à gorge déployée sur le flot déchaîné, je l'appelle à grand cri, rien Marie. Peut-être qu'à la molliment, pour pêcher que c'est le bon temps, mon filet me la rendra dans mes bras. Je l'attends à marée basse. Elle est partie, hélas. À marée haute avec un autre. À marée haute avec un autre.
Alors Jean-Jacques Benex, c'était votre choix pour parler donc de l'île Dieu. C'est Quand la mer monte, chanté par
Raoul de Godswarveld,
qui est un
belge ou flamand ou hollandais. Moi, je connais sa voix. Je suis très mauvais pour tout le reste, si vous voulez. Mais c'est une voix de éraillé par l'alcool, le rhum, le tabac, et c'est une voix de marin, quoi. Et ça, c'est la mer.
Je vous ai connu avec Diva, moi. C'est sorti en même temps que je suis arrivé en France. J'ai vu ce film qui a eu un parcours pour le moins inattendu. Comment vous l'avez vécu, vous? Parce que tout d'un coup, d'abord, ça n'a pas tellement marché. Puis après, c'est devenu un film culte, surtout aux États-Unis.
Si vous voulez, ça a été vraiment... C'est l'histoire d'une passion. C'est une histoire paradoxale. J'ai été assistant pendant très longtemps. J'ai été assistant de beaucoup de metteurs en scène pendant une douzaine d'années, Claude Zidi, Claude Berry. Et puis, au bout de 10 ans, je fais un film. Et je fais un film bizarre, polar, rencontre de l'opéra et du polar. Et un film de couleur bleue, avec des gens pas très connus, une chanteuse noire, et qui s'appelle Diva. Et à la sortie, avec des moyens, c'est pas un petit film. Et à la sortie, le film fait un bide. La critique est épouvantable. Et le film...
Quel effet ça vous fait ?
Mais c'est absolument horrible. Parce que, si vous voulez, c'est 12 années de combat. Je réussis à me hisser en sortant du rang. Hein, parce que c'est vraiment... Je commence par simple soldat. Et je me retrouve, général, quoi. Et je fais ma première bataille. Et la terre s'en trouve sous mes pieds. Je suis humilié. On me dit t'as fait ton premier et ton dernier film en même temps. Voilà, c'est fini pour toi. Au revoir. Et les critiques sont terribles. Mégalomane, film vide, sans acteur.
Vous les avez lus ?
Mais je ne pouvais pas faire autrement. Je voulais savoir, moi. Je ne comprenais rien à ce qui arrivait. Parce que autant je connaissais bien le cinéma, pour avoir été sur les plateaux, j'étais assistant de René Clément, j'ai tourné en studio, j'ai fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans le cinéma. Je connaissais très, très bien ce métier. Mais je ne connaissais pas qu'est-ce qui se passait quand un film sort. Quand un film sort, si vous voulez... J'ai envie de dire c'est le premier bal, mais sauf que les vous êtes une jeune mariée, mais les prétendants sont des loups.
Mais là vous êtes mieux armée, non, après tout ce temps avec là, parce que la critique a pas toujours été très tendre.
Elle n'est jamais gentille avec moi, mais c'est une sorte de.
Vous continuez à lire les critiques ou pas?
Non, je les lis plus. Mais alors figurez-vous que le problème, c'est plus tellement ce que ça me fait, c'est ce que ça fait à mon film. Et à ma possibilité, vous savez, nous vivons dans un monde qui s'intéresse aux résultats. Et vous valez ce que vaut votre dernier film. Si votre dernier film ne marche pas, vous ne valez plus rien. Et quand vous avez, comme c'est mon cas, le malheur de faire très peu de films, si en plus de ça, le temps passe, et que votre production est un peu atypique, vous entrez dans une zone de turbulence. Voilà. mais c'est pour ça que je fais de la peinture, de la musique,
vous
des
êtes
chansons.
Multitasking. Comment vous expliquez la résurrection de ce film, qui est maintenant un film culte surtout aux États-Unis?
La résurrection de ce film, c'est le public. C'est le public et ce sont le public français du cinéma Le Panthéon. Alors, ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est qu'on vous met au Panthéon, en général, quand vous terminez votre carrière, parce que vous avez accompli des choses formidables. Moi, c'était le contraire. On m'a enterré au Panthéon parce que j'étais mauvais. Et la diva a connu une résurrection. Et à ce moment-là, elle est sortie du tombeau. Et le film, à partir de là, a refait une deuxième carrière, considérable, et dans le monde entier, notamment au Japon et aux États-Unis. Mais ce qui est magnifique, si vous voulez, aujourd'hui, quand vous regardez ça, c'est que ça, c'est une histoire de cinéma. C'est un miracle. Et j'ai eu le tort de croire que les miracles pouvaient... Vous voyez, je ne suis pas Jésus, on ne peut pas faire des miracles à la demande. C'était donc un vrai miracle. Mais ça ne s'est jamais reproduit, ça ne se reproduira jamais. Parce qu'aujourd'hui, un film sort. Comme nous sommes dans un cycle de rotation accélérée des stocks, comme il faut gagner de l'argent dans le quart d'heure. Vous savez, regardez les actionnaires. On ne gagne pas d'argent, hop, on licencie, on fout tout à la poubelle, etc. On ne tient pas. Mais on vit dans un monde de fous. Et l'art, c'est... L'art, qu'est-ce que c'est que l'art? C'est le petit canari qu'on emmenait dans les mines autrefois, et pour que quand il y avait un coup de grisou, avant le coup de grisou, quand le canari mourait, c'est qu'il fallait se méfier. L'art est en train de mourir, tué par le commerce.
Vous regardez vous-même, Diva, vous avez vu récemment, est-ce que vous avez le même
Non, j'évite.
Regard.
J'évite, j'écoute plutôt la musique de Cosma, ou par-ci, par-là... Non, j'écoute la musique de Cosma ou la Wally, où j'ai des souvenirs. Ça a été des grands moments, c'est un grand moment de ma vie, si vous voulez, parce que j'ai vibré intensément. J'ai vibré intensément, et c'est pour ça que c'était si douloureux, parce que c'est un film qui s'est fait d'une façon magique, parce que vous sortez, vous êtes un petit assistant, même si je gagnais très bien ma vie, je faisais film sur film, au travail avec Claude Zidi, Claude Berry, c'était très confortable. Et puis tout d'un coup, vous faites un premier film et vous donnez tout. Et c'est un film atypique, différent, poétique, policier. Vous mélangez tout, vous secouez, hop, sort une diva, une sorte de colombe noire. Et là, les chasseurs tirent.
En tout cas, si ça peut vous consoler, un jeune Anglais qui est arrivé à Paris, c'est l'un des premiers films qu'il a vu et il s'est dit, il faut un peu que je reste dans ce pays parce qu'il y a des choses intéressantes qui se passent. Vous pilotez toujours notre avion et nous allons survoler maintenant une autre île, celle de Skye. When you come and find me, I'll be lost in reason. Find me.
like a anvil when you were my angel. I was like a anvil.
On découvre des choses sur France Musique dans Voyage en moi majeur. C'est Jamie McDermott qui chantait en ville. C'est un peu la même voix que ce que Jean-Michel Othoniel nous a passé Johnson & Johnson. Vous me dites, Jean-Jacques Bellex, vous avez failli l'apporter. Ouais. C'est un peu le même registre.
Oui, oui, c'est des voix, on va dire, des hautes contre ou presque.
C'est très baroque.
Très baroque.
Oui.
C'est la musique baroque, on pourrait... On retrouve du Monteverdi, des choses comme ça. Et je trouve assez singulier. Je l'ai croisé à Paris... au Louvre au cours d'une émission, et j'avais été voir son spectacle, et il se produit très peu, et j'attends avec intérêt les d'autres choses qu'il fera. Alors je trouvais que par rapport à l'île de Skye, qui est une île au nord-ouest
de l'Écosse,
dans laquelle je suis allé vers 90.
C'était pour tourner une pub, c'est ça?
Je tournais une pub. Alors, c'est une pub assez singulière parce que ce n'était pas une pub pour une marque française, c'était pour une marque italienne de prêt-à-porter, très importante, mais qui n'est jamais sortie en France, que j'ai tournée avec Isabelle Pascoe. Et j'ai découvert cette île et la beauté des paysages, le côté cristallin de l'eau, des ciels...
On les imagine, moi j'ai jamais été, enfin j'ai un peu des sons écossais, mais j'ai jamais été là-haut. On les imagine quand même assez gris.
Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce que c'est tantôt plein soleil, et puis le quart d'heure d'après c'est voilé, et le quart d'heure d'après c'est demi-teinte. Alors c'est ce qu'on appelle des fausses teintes. C'est-à-dire que vous voyez courir comme des chevaux sur les collines vertes des ombres et des lumières. Et vous ne pouvez pas filmer l'opérateur il met un filtre et le temps qu'il le mette, il faut qu'il l'enlève. Parce que, si vous voulez, c'est tout d'un coup trop de lumière, puis après, pas assez. Alors, c'est des reflets dans les cheveux d'une jolie femme blonde. C'est magnifique. Et l'Écosse, là, on est dans un endroit où, vous comprenez, il y a du whisky, il y a des moutons, il y a de l'herbe, il y a des poissons. Et il y a un air d'une pureté absolue. Et puis, des chaînes de montagnes au loin. Et puis, si vous regardez un peu plus loin, il n'y a plus rien, quoi. Il y a 6000 kilomètres d'océan.
Je ne sais pas, Jean-Jacques Benech, si je suis en train de regarder le metteur en scène avec vos gestes. Parce que depuis une minute que vous parlez de ça, vous peignez, vous un peintre, parce que vous faites des gestes, vous dessinez le ciel avec vos mains.
Mais c'est tellement beau.
C'est habité.
Ah oui, c'est magnifique. Oui, vous lire habité, il y a des gens où...
Oui,
il y a des gens, bien sûr.
Il y a des gens qui habitent sur l'île d'Oscar.
Il y a des gens qui habitent sur l'île d'Oscar. Il y a des gens qui élèvent des moutons. Il y a des chambres d'hôtes. Il y a quelques jolis golfs. Et j'ai eu la chance... j'avais pas d'avion à ce moment-là, mais nous étions avec un pilote, avec un hélicoptère, parce qu'on avait besoin d'un hélicoptère pour les prises de vue, parce qu'on avait mis Isabelle Pascaud au sommet d'un piton, et on la laissait là, et puis on partait en arrière avec l'hélicoptère, et moi je tenais la caméra et on s'éloignait. C'est un travelling arrière. D'ailleurs, au bout de la quatrième prise, j'en faisais une de plus et je vomissais. Et nous sommes revenus après avec cet hélicoptère et nous promenons dans les vallées, le long des gorges, et découvrant des cerfs, des biches qui cavalaient. C'était magnifique.
Est-ce qu'il faut l'argent de la pub maintenant pour faire des choses aussi belles?
Alors ça, c'est un problème, si vous voulez. Moi, j'ai arrêté de faire de la pub pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pensais que les messages étaient souvent inintéressants, que la création n'était pas au rendez-vous. Et cette pub-là dont je vous parle, pour cette marque-là...
On vous donnait la main libre ou pas ?
Non, oui, justement. C'est une des rares pubs. Et je me suis souvent dit, mais pourquoi ils ne me donnent pas la possibilité de faire ce que je veux ? Et ce film a eu tous les prix. J'en ai fait une autre comme ça. C'est une des seules que j'ai créées de A jusqu'à Z pour une marque de pellicule qui est une des plus réussies. Mais non, vous savez, il ne faut pas rentrer en concurrence avec les directeurs de création. Ils n'aiment pas ça. On n'aime pas que les artistes viennent se mêler. On est dans un art industriel. Alors, c'est des bureaux d'études. Il faut répondre à un certain nombre de critères, etc. C'est pour ça que tout s'appauvrit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des bonnes pubs. Il y en a de temps en temps. Parce que, justement, il y a des gens qui sont très créateurs. C'est souvent les meilleurs, hein.
Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas un peu metteur en scène avec les portables? Tout le monde tourne des vidéos. Moi-même, j'ai tourné deux vidéos hier à propos de rien du tout, mais je les ai envoyées par email à des gens.
Mais c'est très bien.
Si vous débutiez votre carrière aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez?
Mais vous savez, à l'époque, quand j'ai commencé, on avait une petite caméra 8 mm, noir et blanc. On achetait un peu de pellicule. J'ai envie de dire, oui, c'est plus facile aujourd'hui, c'est vrai, parce que vous pouvez, en effet, faire un film avec votre téléphone.
Mais c'est
avec
beaucoup
votre
plus difficile de sortir du lot, du coup.
Ah, mais sortir du lot, c'est encore plus difficile, parce que l'image tue l'image. Et c'est pas parce que vous avez un... Je ne dis pas ça pour vous, mais c'est pas parce que vous faites un film avec votre téléphone que vous êtes cinéaste. Cinéaste, c'est un don de soi. C'est pas parce que vous vous amusez avec une robe de chambre rouge et un cintre à faire le torero au milieu de votre salle de bain que vous êtes El Cordobès.
Je vous rassure tout de suite, c'est uniquement pour montrer à quelqu'un comment rentrer dans mon parking. Je voulais vous montrer l'entrée du parking, vous n'avez aucune prétention.
Non, mais loin de vouloir vous dissuader d'être réalisateur.
Je crois que c'est.
Mais ce sont des métiers.
Je suis pas comme vous avec le piano, c'est trop tard pour moi.
Non, mais je vous rassure, vous ne m'avez pas encore entendu jouer et ce que je joue n'est pas si compliqué que ça.
Ça, c'est la fin de l'émission, notre scoop.
Mais je suis un pianiste extrêmement médiocre.
Jean-Jacques Benex, nous poursuivons notre voyage. Nous allons dans un pays où vous avez été une quarantaine de fois. Vous écoutez Voyage en moi majeur ce dimanche soir avec Jean-Jacques Benex. Alors le bord de la table de ce studio est devenu un piano, visiblement pour vous, parce que vous avez joué cette musique. Quel effet ça vous fait ?
Ça me fait surtout... D'abord, je trouve ça admirable, beau, magnifique. Et en même temps, si vous voulez, je mesure l'abîme qui me sépare, pianistiquement parlant, de l'interprétation que je viens d'entendre, voyez, parce que c'est d'une subtilité. Bon, là c'était Thibaudet, mais on aurait pu l'entendre par Ciccolini. Alors la question sur laquelle que je me pose, c'est par rapport à la vitesse. On peut jouer peut-être un peu plus doucement, mais il y a des nuances. Voyez, c'est ça l'impressionnisme musical. Et alors. Debussy et notamment Rêverie, mais ça aurait pu être La fille aux cheveux de lin ou La cathédrale engloutie, ces choses, ça va très bien avec le Japon parce que les Japonais aiment Debussy, ça leur va bien.
Pourquoi ?
Et ça va bien, mais parce que c'est
mélancolie,
mélancolie, sensibilité, intériorité et émotion. Et là, nous faisons escale, mesdames, messieurs, nous faisons escale dans un endroit. Alors, vous allez voir jusqu'où je pousse le soin de la nostalgie. Nous allons dans un endroit qui n'existe plus, qui s'appelait l'hôtel Fairmont, que j'ai découvert il y a à peu près 15 ans, qui était un petit hôtel tout près de la cité impériale, dans une petite rue calme. Et de l'autre côté, il y avait les fossés et le lac qui est autour de la cité impériale. Donc extrêmement calme. Et des cerisiers. Et à l'époque où nous parlons, en ce moment même, les cerisiers doivent être en fleurs.
Mais c'est pendant une semaine seulement,
Oui, c'est ça.
C'est fugace
comme cette musique. Vous voyez que ces ondes musicales et de lumière qui viennent, comme ces fausses teintes. Et alors ce petit hôtel qui était construit dans un style 50, très particulier, petit, d'un luxe extrêmement discret, il y avait une salle à manger dans laquelle j'ai souvent déjeuné seul. Et je me souviens avoir bu dans cette salle à manger un Condrieu d'une très bonne année. J'étais étonné qu'il puisse avoir un Condrieu. C'est un vin blanc de la rive droite du Rhône. Et il y avait, dans cette salle de restaurant, un petit jardin intérieur charmant. Et il y avait aussi une jeune femme qui jouait du Debussy. Vous voyez ? Et j'ai appris, il y a très peu de temps, que cet hôtel avait été détruit. Et j'étais extrêmement peiné.
Visiblement.
On y mangeait une cuisine occidentale.
C'est le repas le plus étonnant au cours de vos voyages. C'est l'une des questions auxquelles vous avez répondu dans le questionnaire que vous avez envoyé. C'est le sukiyaki.
C'est le sukiyaki. Le sukiyaki, c'est autre chose. On le mange on le déguste dans des restaurants beaucoup plus typiques. Et c'est de la cuisine japonaise. Alors qu'à l'hôtel Fairmont, c'était une cuisine occidentale. On pouvait très très bien avoir du chevreuil, une côte de veau et des choses assez raffinées parce que les Japonais ont depuis belle lurette appris à faire la cuisine française avec les plus grands chefs français et vous avez à Tokyo les meilleurs restaurants du monde. Vous trouvez tout à Tokyo.
Mais le sukiyaki, c'est quoi ?
Le sukiyaki, c'est une sorte de pot-au-feu dans une grande marmite épaisse de bronze. Vous graissez ça avec de la couenne de lard et vous mettez dedans des légumes que vous faites un peu revenir. Alors, des oignons, des poireaux, des nouilles, des vermicelle au soja, et puis des pâtés de soja, et puis de la viande par-dessus. Et vous m'en trempez ça dans de l'œuf, du jaune d'œuf battu.
Vous êtes cuisinier, parce que la façon dont vous parlez avec les gestes,
parce que
vous êtes en train de le faire.
Et avec du saké chaud.
Ah.
Oui. Ou froid. froid. C'est mieux le froid. C'est mieux froid parce que le saké se consomme plutôt froid. Mais étant occidental, j'aime bien le saké chaud. Quelque chose qui monte en vous. Et on imagine bien l'hiver, le bois et la convivialité japonaise dans les restaurants japonais avec des sushis et du saké chaud.
Donc là, Jean-Jacques Benex, c'est de la bande originale du film, vous l'avez déjà dit, à Vladimir Kosma, signé donc pour Diva, et c'est interprété par Wilhelmina Fernandez, mais ce qu'on ne dit pas sur la pochette, c'est Wilhelmina Wiggins Fernandez. Ça vous fait quoi d'entendre ça?
Ah, mais c'est des souvenirs, alors c'est l'émotion la plus totale, parce que l'histoire de cette promenade était... une relation extrêmement forte avec la chanteuse, que j'ai beaucoup aimée, qui est une femme extraordinaire. Et puis la création de cette musique avec Kosma, ça s'était très mal passé au début, et puis après il s'est mis à jouer ça tout d'un coup. Et, c'est certainement un des moments les plus grandes émotions de ma vie.
Parlons maintenant de votre escale suivante, c'est Santa Monica. Et là, vous avez choisi la piste roller de Santa Monica, oui, en Californie. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous fait? Pourquoi? Vous faites du roller?
Oui, c'est le dernier sport que j'ai pratiqué de façon intensive.
Avant là, ou après arrêté, le piano?
J'ai un peu arrêté, et notamment il y a quelques années, quand j'ai été beaucoup à Hollywood pour préparer des films qui ne se sont pas faits. Et si j'ai pu tenir le coup et avoir des rendez-vous et aller dans les studios, c'est parce que j'avais un secret, c'est que tous les jours, je partais de mon hôtel 5 étoiles sublime, qui était à l'intérieur de Hollywood, et je prenais la voiture et j'allais jusqu'à Santa Monica, et là, je chaussais mes rollers. Et je faisais 2 à 3 heures de roller non-stop sur cette bande de béton le long du Pacifique où vous faites 13 km dans un sens, 13 km de l'autre. Et là, vous changez de dimension, vous êtes en Amérique, à côté du Pacifique. Dans un sens, vous avez le soleil dans la figure, dans l'autre, le vent vous pousse et vous croisez des corps. Tout le monde est beau. Tout le monde est magnifique, c'est l'Amérique, et vous êtes à Hollywood. Et ça, qu'est-ce que vous voulez? Alors Barry White, voilà, vous êtes dans le rêve, mais c'est un rêve frelaté. Hey baby, that's no lie. Oh no, baby. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss
or just because you're sweet. Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name, look what you got to do with, darling. I can't get enough of your love, baby. No, babe. Girl, if I could only make you see and make you understand. Girl, your love for me is all I need and more than I can stand. Oh, well, babe, how can I explain all the things I feel? You've given me so much, girl, you're so unreal still. I keep loving you more and more each time. Girl, what am I gonna do? Cause you're blowing my mind. I get the same old feeling every time you're here. I feel a change, something moving. I scream your name, look what you got me doing. Darling, I can't get enough of your love, baby. Oh, no, baby.
Oh, Barry White avec sa voix inoubliable. Can't get enough of your love, babe. Là, vous étiez encore en train de tapoter Jean-Jacques Benek sur le bord de la table de ce studio. C'était pour parler de Santa Monica. Il faut dire que vous avez choisi une autre escale, mais juste en deux mots, les îles Lipari. Pourquoi vous vouliez parler des îles Lipari?
Parce qu'elles cumulent deux fantasmes qui sont l'île et les volcans. Voilà, je suis fasciné par les volcans.
Rappelez-nous où sont les îles.
Elles sont un petit peu au large de Naples, dans l'Italie du Sud, pas très loin de Messine, qui est le détroit que j'ai traversé très très souvent avec mon bateau, qui est entre la botte de l'Italie et la Sicile. Et qui, quand vous traversez ça, bah, vous arrivez vers la Turquie, vers la Grèce. Et bon, c'est une chose d'y aller... à pied, et c'est une autre de faire ça avec votre propre bateau. Donc j'aimais les détroits, etc. Mais j'aimais surtout ces îles. Stromboli, Lipari, Volcano sont des îles avec des volcans qui sont encore en activité. Et je suis allé plusieurs fois avec mon bateau sur ces îles. Et il y en a d'autres qui sont un peu semblables. C'est les îles Açores, mais alors elles sont au milieu de l'Atlantique. Et elles m'ont toujours fasciné, ces îles. Vous voyez.
Je vous cite, Jean-Jacques Benex, « D'un bord à l'autre, comme un cargo qui roule dans le labyrinthe d'une création hétéroclite et souvent rêvée, au fil du dédale d'un musée réel, je prends la décision déraisonnable de m'exposer hors de la salle obscure. Pourquoi ?» Parce qu'on parlait de votre exposition donc, qui a lieu jusqu'au 29 septembre au musée des années 30 à Boulogne-Billancourt.
Mais parce que c'est déraisonnable de... Vous voyez, je ne suis pas vraiment peintre, je ne suis pas vraiment musicien, je suis tout juste cinéaste, mais je m'expose. Alors, je m'expose aux ennuis, vous voyez, mais en même temps, il y a une certaine dérision.
De la critique encore?
Oui, mais je pense que c'est ça, oui. Et puis, j'ai l'impression, si vous voulez, quand je fais ces choses-là, que je ne suis pas vraiment légitime. Mais ça, c'est l'expression du doute profond qui m'habite.
Mais c'est dingue quand même, non?
Oui, c'est dingue, mais c'est comme ça. Voilà, mais c'est sans doute
et
avec ça qu'on fait des films.
Parce qu'il y a une série de pièces qui représentent différents aspects de votre création.
C'est un labyrinthe, c'est un quinconce, c'est un film qui s'emboîte dans l'autre, c'est un univers qui s'emboîte dans l'autre. C'est une très, très, très belle idée.
Il y a différentes pièces qui sont pour différents films, par exemple.
Oui,
il y a la cuisine.
Tout à fait, avec de la musique, avec des chansons, avec des choses comme ça. Tout est mélangé. Mais je suis à l'aise pour en parler d'une certaine manière, parce que je ne suis pas à l'origine de cette exposition, mais la responsable s'appelle Juliette Singer et c'est la conservatrice, et c'est elle qui a eu cette idée et a réussi à me convaincre qu'il fallait faire cette exposition. Et franchement, je lui disais, mais non, mais écoutez, je vous assure, ça n'en vaut pas la peine, mais non, ne faites pas ça. Voilà, et puis voilà, c'est en cours et c'est en train de se faire, et c'est pas si mal que ça.
Il y a aussi votre travail plastique.
Oui, 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 parce que j'ai des velléités d'être sculpteur, de faire des installations, de faire des meubles. J'ai fait un piano. J'avais fait à une époque des assiettes pour le Festival de Cannes à partir d'un tableau. Et on avait, ce tableau était devenu des assiettes. Là, j'ai fait un piano. Alors du coup, je joins l'utile à l'agréable. Et nous allons sur ce piano. Alors il y a un grand tableau qui fait 2 mètres par 2 mètres qui s'appelle « La fin du monde ». Que j'ai fait il y a assez longtemps et que j'ai fait les croquis il y a assez longtemps et je l'ai exécuté il y a relativement peu de temps, il y a une dizaine d'années, et c'est une des plus grandes toiles que j'ai faites. Et ce tableau a été imprimé sur un piano Yamaha, un demi-queue, et on va jouer sur ce piano. Alors, dans la même salle, il y a le tableau, ce piano qui est donc peint. Et on va y jouer cette mélodie de Satie qui s'appelle Vexation. Donc, si vous voulez, c'est une sorte d'installation, performance. On a le tableau, la musique et le fait que je vais convoquer un certain nombre d'étudiants, de gens de conservatoire, de pianistes. Je convie un peu tous les pianistes de France et de Navarre à venir jouer une ou deux mesures de Satie, de façon à ce que tous ensemble, nous fassions les 843 fois que Satie préconisait, et que donc nous nous ajoutions à la liste des gens qui ont joué l'intégrale de Vexation de Satie. Et ça sera filmé avec 3 caméras, et ce film sera diffusé sur l'Internet. Voilà, alors maintenant c'est une création originale cinématographique. Ça sera mon prochain film.
Alors, est-ce qu'on peut lancer tout de suite le scoop? C'est un enregistrement. On vous a jamais entendu Jean-Jacques Benex jouer du piano. Oui. Voici un enregistrement inouï quand vous passez dans Voyage en moi majeur. Donc, c'est vous qui jouez un extrait, donc pas tout dans la longueur, des Vexations de Satie. Écoutez. Bah, vous vous débrouillez quand même très bien, non? Vous l'avez fait quand, ça, cet enregistrement?
Il y a là quelques temps.
Voilà, donc c'était Jean-Jacques Benex jouant du piano. C'est la première fois qu'on entend ça à la radio. Évidemment, il faut que ce soit sur France Musique. Donc c'est au musée des années 30 à Boulogne-Billancourt jusqu'au 29 septembre 2013. J'ai envie de vous poser une question que je pose souvent à des invités. Le petit garçon que vous étiez, 5-6 ans, tout d'un coup vient s'asseoir dans ce studio. Qu'est-ce que vous lui dites?
Ne recommence plus jamais ça.
C'est une très belle réponse. On va la garder pour le best-of de l'émission. Merci en tout cas, Jean-Jacques Benex. C'était très sympathique d'avoir piloté notre avion et on Merci. Vous retrouve bientôt. Mesdames et messieurs, en vue de notre prochain atterrissage, veuillez redresser votre imaginaire et raccrocher votre curiosité. Au nom de toute l'équipe, avec aux commandes Fabien Flora, notre réalisateur, Maud Nourry, l'assistante de production, et Amandine Grévaux à la technique. Ce soir, nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous espérons vous revoir surtout la semaine prochaine pour un autre vol de France Musique. Je ne sais pas s'il va souffrir de vexation 843 fois, mais Laurent Valeron, en tout cas, nous attend pour ces nuits noires de monde. Bonsoir, Laurent.